Musicopolis. août 1788, Weringergasse, Vienne. À la fin du XVIIIe siècle, la Weringergasse se trouve aux confins des faubourgs de Vienne, un quartier excentré où on peut trouver à se loger pour moins cher que dans le centre. C'est pour cette raison que la famille Mozart a déménagé le 17 juin 1788 dans la maison dite aux Trois Étoiles. La famille Mozart, c'est-à-dire deux parents, Constanz et Wolfgang Amadeus, et un bébé de 6 mois, Thérèse. Leur aîné, le petit Karl Thomas, est en pension à quelques kilomètres de Vienne. La mère, Constanz, a été longue à se remettre de la naissance de sa petite fille. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent en médecins et apothicaires. Wolfgang est obligé d'emprunter à droite à gauche pour faire face aux dépenses. Et pourtant, il travaille sans cesse pour essayer de remonter la pente. Pendant quelques semaines, dans le nouvel appartement, il compose à un rythme effréné, et notamment trois symphonies. Le 10 août, il achève la troisième en do majeur. Mozart est un homme de théâtre. On l'entend dans ce début de symphonie, on dirait une ouverture d'opéra. D'ailleurs, il a eu récemment de très beaux succès dans ce genre. Les Noces de Figaro, données à Vienne en mai 1786, puis à Prague en janvier 87. Et à la suite du succès de Prague, une nouvelle commande qui aboutit à la création de Don Giovanni, qui marche très bien aussi dans la capitale bohémienne, fin octobre 87. Cet esprit dramatique, Mozart le conserve, même lorsqu'il écrit des œuvres sans parole. À tout moment, le rideau pourrait s'ouvrir sur une scène de théâtre avec des personnages et des situations qui intéresseraient le public que nous sommes. Mozart connaît bien le public. Il sait que même dans une symphonie, il lui faut de l'action. Des coups de théâtre, des contrastes entre des moments héroïques et des moments tendres, entre des mélodies recherchées et d'autres, au contraire, d'un caractère franchement populaire. Ce thème du premier mouvement de sa symphonie, numéroté 41e aujourd'hui, n'est pas nouveau sous la plume de Mozart. En fait, c'est la mélodie d'un petit morceau d'opéra bouffa qu'il a écrit 3 mois plus tôt pour Francesco Albertarelli, le chanteur qui a créé le rôle de Don Giovanni à Vienne. Le morceau « Un bacio di mano » était destiné à être intercalé dans un ouvrage d'un autre compositeur, Pasquale Anfossi, une pratique courante. Dans cette ère, nous dit-on, un Français moqueur et cynique essaye de déniaiser un jeune amoureux transi. « Vous êtes un peu benêt, mon cher Pompeo. Allez donc étudier les us du grand monde. »
Vous siete un po' tonto, mio caro Pompeo. L'usanze del mondo andate a studiar, andate, andate, andate a studiar, andate, andate, andate a studiar.
Il est très probable que le thème de cet air bouffe vient d'un motif folklorique. C'est que Mozart ne dédaigne pas, bien au contraire, de s'inspirer de la musique populaire. En introduisant cette mélodie dans sa grande symphonie en do majeur, peut-être veut-il montrer qu'il sait faire son miel de toutes sortes de genres et qu'il les considère tous à égalité. Les Viennois, eux, sont loin d'être aussi œcuméniques dans leurs goûts musicaux. Lorsque Don Giovanni a été donné en mai 1788 dans la capitale impériale, beaucoup ont boudé l'œuvre, jugée trop difficile. Plus personne aujourd'hui ne partage cette opinion, je crois. Mais on peut toujours essayer de se mettre dans la peau ou dans l'oreille d'un auditeur de l'époque. Par exemple, en s'étonnant de ce que fait Mozart de ce fameux thème populaire dans la symphonie 41. Il reprend la mélodie telle qu'elle, d'abord, toute simple. Puis il change l'éclairage et il se lance dans un développement qui n'a plus rien de populaire, où passent toutes les couleurs et tous les sentiments et où on peut à nouveau imaginer toutes sortes de situations dramatiques. On peut comprendre que l'auditeur de 1788 ait eu un peu de mal à suivre la musique riche et élaborée de Mozart, qui nous paraît si évidente aujourd'hui. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et c'est à cause de cette désaffection des Viennois que la situation de Mozart est tellement précaire à cette époque. Pourtant, il vient d'être nommé compositeur de la chambre par l'empereur Joseph II. Depuis 7 ans qu'il est arrivé à Vienne, Mozart n'a eu de cesse de satisfaire les Viennois. Et ceux-ci se sont laissés convaincre avec beaucoup de plaisir pendant les premières années. Il a pu donner de nombreux concerts et publier des œuvres de tous les genres. Il s'est fait connaître comme virtuose, comme improvisateur. Il s'est fait une joie de composer de la musique d'orchestre, de la musique de chambre, de la musique vocale et même de la musique pour la loge maçonnique dont il fait partie depuis 1784. Il a des amis, parfois des frères en maçonnerie. C'est à l'un d'eux, Johann Michael Puschberg, qu'il s'adresse en juin 1788. « Très cher, excellent ami, la certitude que vous êtes mon véritable ami et me connaissez comme un honnête homme me donne le courage de vous ouvrir tout mon cœur et de vous faire la demande suivante. Sans phrase et avec ma sincérité native, j'irai droit au fait. Si vous vouliez bien avoir l'amitié et l'affection de m'assister pour un ou deux ans, d'un ou 2000 florins contre intérêt convenable, c'est dans ma subsistance même que vous me viendriez en aide. Malgré les prières de Mozart, l'ami Puchberg ne va lui donner que de quoi payer quelques dettes urgentes. Mozart n'obtiendra pas de lui un prêt important pour voir venir à long terme. 10 jours après la lettre envoyée à Puchberg, Mozart lui écrit à nouveau pour l'assurer qu'il sera bon payeur, qu'il versera tous les intérêts qu'on voudra lui demander, mais que vraiment, il est dans la nécessité absolue de faire un emprunt. Il ajoute « Dans les 10 jours que j'habite ici, j'ai davantage travaillé qu'en 2 mois dans mon autre logis. Et s'il ne me venait pas aussi souvent des idées noires que je dois repousser avec effort, je me porterais encore mieux, car je suis logé agréablement. » Le sort s'acharne sur la famille Mozart en ce début d'été 1788. La petite Thérèse, bébé de 6 mois, meurt le 29 juin et ses parents vont accompagner un petit cercueil au cimetière pour la 3e fois en 5 ans. Mais comme on le constate dans le catalogue de Mozart, et qui confirme ce qu'il écrit à Puchberg, sa production n'en ralentit pas pour autant, ni en quantité ni en qualité. En date du 22 juin, un trio en mi majeur. Le 26 juin, la sonate pour piano dite « sonate facile ». Le même jour, un prélude et fugue pour quatuor à cordes et la symphonie en mi bémol majeur, la 39e. Le 10 juillet, une sonate facile, pour piano et violon cette fois. Le 14, un trio en ut majeur. Le 16, une canzonetta pour deux sopranos et une basse. Le 25, la symphonie en sol mineur, 40e. Et enfin, le 10 août, la symphonie en do majeur, la 41e. Ce brillant menuet de la symphonie 41 de Mozart n'est évidemment pas le premier menuet qu'il compose. À la fin du XVIIIe siècle, le menuet est l'une des danses les plus souvent jouées dans les bals et les musiciens les composent par douzaines. Même les musiciens que nous considérons aujourd'hui comme les plus grands, Haydn, Mozart et quelques années plus tard Beethoven, doivent produire des menuets pour satisfaire les danseurs. Beaucoup de mystères planent sur la composition des trois symphonies de 1788. Dans quel but Mozart les a-t-il écrites ? Le plus plausible est qu'il compte les faire jouer à l'automne, lors de concerts par souscription. C'est pour un cadre semblable qu'il avait composé plusieurs concertos pour piano en 1784 et 85. Mais alors pourquoi cette fois-ci vouloir présenter des symphonies ? Peut-être parce que les temps ont changé. Peut-être espère-t-il qu'après les avoir éditées, il trouvera des acquéreurs et qu'il pourra les vendre, peut-être même à l'étranger, comme le fait son grand ami Haydn. Peut-être sent-il la nécessité de mettre par écrit toutes ses idées orchestrales, alors qu'il n'a pas écrit de symphonie depuis un an et demi. On peut être surpris par la simplicité du thème du final de la symphonie en do majeur de Mozart. Quatre notes et qui forment plus un squelette qu'une mélodie avec de la chair. Ces quatre notes ressemblent plus à un exercice de contrepoint qu'au thème d'une grande symphonie. Mais justement, on peut faire tellement de choses avec quatre notes comme celle-ci. Mozart en a déjà fait usage dans deux symphonies, la première et la 33e, et surtout dans sa messe brève, écrite pour Salzbourg en 1774. Ce thème de quatre notes, qui se trouve si bien à sa place sur le mot « credo, credo » et qui se développe si facilement dans le contexte de la musique religieuse, vient d'un verset de l'hymne latine « Pange Lingua ». On constate à l'époque de Mozart que la musique religieuse est souvent d'une écriture un peu plus sérieuse que la musique profane. Et effectivement, ce thème convient bien au contrepoint, c'est-à-dire à l'écriture rigoureuse des lignes musicales. L'apprenti Mozart a longuement planché dans son enfance sur le traité de contrepoint de Fuchs. Et c'est avec le même genre d'exercice très rigoureux que lui-même entend former ses quelques élèves. Et puis, il a une connaissance profonde de la musique baroque, notamment celle des grands contrapuntistes Bach et Händel. Dans le final de la symphonie, Mozart va développer à son tour une imagination du contrepoint proprement inouïe. Et en même temps, comme dans le premier mouvement, il va naviguer dans l'univers de l'opéra bouffa et répondre à ses quatre premières notes par une joyeuse désinence qui pourrait sortir de la bouche de Figaro ou de Leporello. On peut très bien imaginer que Mozart, qui compose directement au propre, à peu près sans rature et sans remords, a longuement pensé à ses trois symphonies de l'été 1788 avant de les coucher sur le papier. Et pourquoi pas même penser qu'il les a envisagées comme une somme, 12 mouvements qui font à cette date le point sur le genre de la symphonie. Et dans l'écriture du dernier des 12 mouvements, le final de la symphonie 41, il réussit même la réunion des goûts. Goût du contrepoint le plus savant et le plus rigoureux, allié au goût du théâtre, tragique ou comique, seria et bouffa, tout l'univers dans un seul mouvement. Molto Allegro, le final de la symphonie 41 en Do majeur de Wolfgang Amadeus Mozart, l'orchestre baroque de Fribourg dirigé par René Jacobs. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Guillaume Ledu pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site et Claire Lagarde pour la réalisation.